Truelle et Sac à dos, l'émission qui vous parle de médiation en archéologie. Truelle et Sac à dos vous propose des rencontres, des découvertes de lieux et d'objets permettant d'évoquer la médiation en archéologie et les différents métiers qui la composent. Quel est le véritable rôle de la médiation en archéologie et quels sont les outils pour la mener à bien? Nous tenterons de vous révéler tous ces secrets. Bon alors, est-ce que ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Il fait des bulles.
Dis-moi. Ouais.
Alors, qu'est-ce que tu... bonjour. Bonjour Jean-Charles. Alors, moi, je suis avec Truelle et Sac à dos. Donc, je suis arrivée jusqu'à Plemelin. Donc, habituellement, je me balade dans toute la Bretagne avec ce petit podcast maintenant. Donc, je suis sur Radio Évasion. Et donc, je suis bien contente d'être là. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, j'ai à chaque fois une première question qui est de demander à mon invité de se présenter, de nous faire un petit tour d'horizon. Alors là, en plus, on est sur... une longue carrière,
non,
donc
on va faire
une synthèse. Donc ça serait bien que tu nous racontes un petit peu, mais qui êtes-vous?
Bon ben voilà, c'est Jean-Charles Aramon, donc je travaille au ministère de la Culture, service régional de l'archéologie, jusqu'à la fin d'année à peu près, après je pars à la retraite. Et je suis le responsable, entre autres, des fouilles programmées sur Plemelin, où on se retrouve aujourd'hui. Donc c'est un petit retour parce qu'on s'était vu en 2008 au niveau des thermes, lors de la fouille des thermes. Et ici, sur la villa, on a repris en 2013. Et on est toujours en cours de fouille, donc encore pendant un an ou deux, enfin bon, en fonction de ce qu'on va trouver encore cette année.
Alors, au niveau de ton parcours, parce que j'aime bien revenir aller gratter un peu, parce que parfois on a des parcours un peu atypiques ou des choses un peu différentes. Est-ce que toi, tu sors d'une formation d'archéo voilà, par où t'es passé pour arriver jusqu'à Plemelin, justement?
Alors, oui, de toute façon, j'ai une formation effectivement d'archéo, hein, comme tout universitaire. On commence tous, alors maintenant c'est des masters, avant c'était des maîtrises, enfin bon, des choses comme ça. Donc moi je suis toulousain, hein, donc j'ai fait mes études à Toulouse, ça s'entend à mon accent. Et ensuite, j'ai fait les parcours techniciens à l'AFAN, qui était la structure à l'époque nationale. Après, il y avait aussi des structures gérées par les SRA, que ce soit la PAMP, la DAL à Montpellier. On commençait technicien, puis après, au fur et à mesure des chantiers, on monte. Hein, et puis, passer à l'INRAP aussi, donc à l'INRAP, responsable d'opération aussi. Et après, AST, donc responsable de région. Et après, je suis parti au SRA. J'ai été en SIRA pendant 12 ans, en tant qu'expert de l'Antiquité, en Grand Ouest, hein, ici. Même si j'habitais Toulouse. Et ensuite, je suis depuis fin 2012, j'étais CDD au SRA. Et je m'occupais du département du Finistère pour le ministère de la Culture. Ça veut dire prescription, enfin tout ce qui concerne l'archéologie, que ce soit l'archéologie préventive, programmée, relations avec les élus et tout.
Et alors, comment t'en es venu à l'Antiquité, justement? Pourquoi t'as choisi cette période-là de l'histoire? Est-ce que ça s'est fait, étant sur Toulouse, peut-être? Je sais pas.
Non, l'Antiquité, ce que je conseille d'ailleurs à tous les étudiants que j'ai ici, c'est faire des fouilles sur différentes périodes. Ça, c'était... Et moi, c'est peut-être mon esprit un petit peu frondeur, parce qu'on nous disait à l'époque, donc il y a 40 ans, hein, maintenant, 45 ans, et tout, on disait, c'est pas peine de faire l'Antiquité, on connaît tout. Faites plutôt de la proto, parce qu'on ne connaissait pas trop la proto. La Bretagne était pionnière dans les études en proto, hein, avec le Billan, au Braden, ou des choses comme ça, en préventif, hein, ou en programmé. Et donc voilà, donc moi j'ai fait de l'Antiquité parce qu'on m'avait dit qu'il ne fallait pas en faire et que... et voilà, et je pense que c'est bien, c'est une période, même en Bretagne, on ne la voit pas trop, mais on la connaît de plus en plus, donc c'est bien.
Et alors, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous évoquer quelques projets au cours de ta carrière sur lesquels toi tu as aimé travailler ou tu as pris plaisir à faire ce travail-là d'archéologue, justement?
Alors, travail d'archéologue, en préventif, on tombe sur des chantiers plus ou moins intéressants. Donc effectivement, moi j'ai fait un gros chantier sur le parking Esquirol à Toulouse où on avait le temple du Capitole. Donc ça c'est un bon marqueur. Et puis voilà, ça aide à se faire connaître aussi, hein, dans la communauté scientifique. Sinon, après, en préventif, alors ce qui est un petit peu frustrant, c'est qu'en préventif, si on revient 6 mois après ou 7 mois après, il n'y a plus rien. Il y a une autoroute, il y a un parking, il y a un lotissement. Et donc, c'est vrai que faire la programmer et s'investir en programmer, c'est bien parce que c'est des choses qui restent après.
Oui, c'est des sites qui continuent de vivre.
Et c'est des sites pour lesquels même, bon, déjà les fouilles, il n'y a qu'une archéologie, mais en programmé, on a le temps de réfléchir entre 2 campagnes de fouilles. Et on est sollicité sur le long terme parce qu'il y a aussi les mises en valeur, il y a aussi des gens qui s'investissent heureusement après nous. Hein, on ne gère pas tous les sites, ce n'est pas nos sites. Surtout moi, quand j'arrive pour fouiller avec mon accent en Bretagne, ce qui m'intéresse le plus, c'est que les gens s'approprient leur site, finalement. Et à partir du moment où ils se l'approprient, ils le font vivre. Que ce soit des élus, que ce soit des associations. Et non, c'est pas des photos aériennes, c'est juste...
C'est ça. Ils sont tous en train de prendre des photos au-dessus du site. Ils adorent ce site de Plomelin. Oui, voilà. C'est ça, on est filmés en direct. Alors, par rapport justement aux fouilles programmées, l'idée c'était de revenir sur le site de Plomelin et que tu puisses nous raconter peut-être un peu de son histoire et nous expliquer toi en termes de valorisation aussi, puis peut-être son devenir, quoi, vers où on tend.
Alors le site de Plomelin, oui, c'est vrai que quand j'ai pris cette fouille, que ce soit au niveau des thermes en bas ou au niveau de la villa, c'est toujours un peu particulier parce que Plomelin, c'est des sites qui ont déjà été fouillés. Donc pour un archéologue, ça peut paraître un peu bizarre. Et ça a été les deux sites, hein, font arrondir la villa du Pérennou. Et les termes du Pérennou, parce qu'on est sur l'emprise du château du Pérennou. Maurice Gauthier, qui fait des photos aériennes un petit peu partout en Bretagne et qui était passé ici, a montré le lien entre par une photo, parce qu'on a un chemin d'accès direct entre les termes et la villa. Donc on est sûr qu'ils font partie de même ensemble, même s'ils sont physiquement séparés. Et donc moi, c'est quand même... Alors, étant donné que ça fait partie du château, ça n'a jamais été pillé. Les pierres n'ont pas été récupérées, donc c'était quand même des ruines qui, début 20e, fin 19e, c'était des ruines romantiques, on aimait bien ça, donc on avait des ruines antiques et qui n'ont pas trop bougé. Par exemple, sur les thermes en bas, le frigidarium, on a la base de la fenêtre qui était encore conservée. Ça veut dire qu'on a quand même des élévations, même sur la villa, de presque 2 mètres ou 2 mètres 20 par endroit. C'est des choses qui ont 20 siècles.
Et ce qui est déjà beaucoup en termes d'élévation, c'est vrai qu'en Bretagne, on parlait de l'antiquité justement sur les sites, sur la région de manière générale, c'est vrai qu'on est content quand on trouve des élévations comme ça.
On est content, voilà. Donc, étant donné que ces sites sont relativement rares, hein, parce qu'en Bretagne, pour les mises en valeur, on a beaucoup d'églises, on a beaucoup de mégalithes. Mais pour la période antique, c'est un petit peu plus rare. Il y a des sites, mais voilà. Donc c'est bien que toutes les périodes soient représentées, sachant que la période antique est relativement facile à mettre en valeur, puisque c'est quand même du bâti. Il y a des périodes qui sont beaucoup plus difficiles à mettre en valeur si on ne reconstruit pas entièrement. Les Gaulois, quand c'est des maisons à sortir boisées, il faut faire soit des reconstitutions, hein, des villages, ou au Moyen-Âge, comme à Mélan. Donc ici, voilà, ici, étant donné que nous avons la villa, les thermes et un petit fanôme associé, donc on a l'ensemble complet de ce que pouvait être une villa de gens cossus, bien sûr, hein, c'est pas le tout venant, mais donc la villa de toute façon se situe au bord de l'Audé, c'est la route des châteaux, donc on peut dire que les bords de l'Audé ont été toujours
occupés plutôt de manière un peu des élites, voilà, des élites du secteur, voilà, qui sont toujours accaparés cet endroit, parce qu'apparemment c'était plutôt agréable, quoi, hein. C'est un site plutôt...
Ça continue, et l'intérêt de... Alors bon, on peut se dire, ouais, c'est un peu dommage que ces gens-là... Et c'est grâce à eux qu'il y a très peu de villas, et que depuis 20 ans, le conseil général, la mairie de Plomelin rachète des terrains pour que tous les gens puissent se promener, ce qu'on ne pouvait pas faire avant, parce que les châteaux arrivaient directement, les domaines des châteaux arrivaient directement sur l'Audé, alors que depuis 2008, par exemple, hein, quand on a commencé à racheter des bandes de terre de 20, 30, 40 mètres au bord de l'Audé, on a des cheminements qui sont très très fréquentés. Et l'intérêt de ce site aussi, quand on se lance dans une fouille programmée pour mettre en valeur, c'est l'environnement. Ici, on est au milieu de chemins piétons, de circuits, Et donc, c'est une plus-value aussi pour les sites.
Oui, aujourd'hui, ça fait partie de tout ce qui est tourisme, du cheminement doux, qu'on souhaite aussi d'un point de vue naturel, et puis de préservation de l'environnement. Quoi. Voilà. Enfin, on est tout à fait là-dessus.
Et si on veut visiter les thermes ou la villa, il faut prendre ses pieds. Et voilà, on n'arrive pas avec un parking au pied. Donc, c'est vrai que bon, ça ne se mérite pas, parce que ce n'est pas une question de mérite, mais ça permet de garder l'aspect rural de ces vestiges.
Du site en tant que tel, quoi. Et alors, la valorisation, donc là, un début, donc on est sur quand même pas mal d'années maintenant de fouilles réalisées entre les thermes en contrebas puis la villa. Et donc, une valorisation prise en charge par le Conseil général du Finistère pour les thermes. Et alors, pour la villa, comment ça se passe ?
La villa, c'est une propriété de la commune. Donc, la villa et les thermes, d'ailleurs, l'ensemble est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 2 ans, puisqu'on a fait classer l'ensemble. Donc, ben, le financement sera à la fois CRMH ou c'est mixte, hein, de toute façon, avec le département, la communauté de communes, la commune.
Ça, donc, chaque collectivité participera financièrement pour faire en sorte que tout soit accessible, quoi.
Et les thermes ont été, donc on a fouillé en 2008, ils ont été restaurés, inaugurés en 2012. Et le but, c'est de faire la même chose, même style de restauration, la même chose pour avoir justement l'ensemble cohérent dont je parlais tout à l'heure.
Alors là, la fouille programmée pour la villa, elle est censée se terminer pour quand ?
Alors au départ, la fouille programmée, c'était la villa. Donc, comme pour les thermes, donc les thermes, en une campagne de fouille, on a fouillé les thermes. La villa, on avait prévu 3 ans. Une triannuelle pour finir. Et puis, dès la première année, où on s'est rendu compte que nos prédécesseurs, donc, qui ont fouillé la villa, donc ils ont suivi les murs, mais ils n'ont pas trop regardé ce qu'il y avait dessous. Et nous, on a trouvé un état antérieur antique. Et encore dessous, 3 états gaulois qui se développent sur le demi-hectare de la parcelle. Donc, au lieu de fouiller que la villa qui sera mise en valeur après, nous, en programmé, on étudie l'historique du site. Donc, pour le moment, on remonte au moins jusqu'au 3e siècle avant.
Donc là, l'idée, c'est quand même de pouvoir justement savoir un peu cet historique, où vous l'arrêtez, et puis de laisser dans un état fini. Alors, on va rester sur quelle période, justement, de valorisation du site ?
Alors, sur le terrain, ce sera la période antique. D'ailleurs, à chaque fois qu'on bouge, qu'on fouille, on rebouge derrière quand on a fini, parce que c'est aussi une question de gestion des déblais. Mais l'intérêt, nous, de la programmer, c'est effectivement après de faire. Ben, de façon, la fouille est une partie de l'archéologie du site. Hein. Après, il y a les publications. Donc, chaque année, on fait un rapport. Tous les rapports sont en ligne en Bretagne, hein, sur le site du ministère de la Culture de la DRAC. Et ensuite, ben, on est tenu à faire des publications à la fois scientifiques et à la fois grand public.
Alors ça tombe bien que tu parles de ça, parce que j'ai une petite question que j'essaie de poser un peu à tous ceux que je rencontre, à savoir, c'est quoi pour toi la médiation en archéologie ?
Médiation en archéologie, c'est démystifier l'archéologie et peut-être la sortir un petit peu des clichés qu'on a pu nous en donner avec certains supports ou certains médias. Mais je pense depuis 20 ans, 25 ans, ça se fait de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens qui sont demandeurs. Et le problème, c'est qu'au début, on venait voir les archéologues et maintenant, on a de plus en plus envie d'avoir des renseignements toute l'année. Et toute génération confondue, enfin c'est pas Tintin, mais c'est de 7 à 77 ans. On accueille beaucoup de troisième âge, comme on accueille beaucoup aussi de classes scolaires. Donc, ça nécessite d'une présence toute l'année que nous, archéologues qui fouillons, ne pouvons pas faire.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'on rencontrait déjà.
Il nous faut des relais.
C'est ça.
C'est évident, parce que on fouille un mois, donc les gens ils adorent venir voir les archéologues fouiller. Ce que je n'ai pas dit, c'est que tous les chantiers en programmé, que nous avons dans le Finistère par exemple, ou en Bretagne, c'est aussi des chantiers écoles. Donc on forme des gens, on forme des étudiants. Donc quand on fait des visites guidées, ça leur permet aussi d'apprendre à parler, de se former aussi dans la... Un début de médiation, c'est pas des exposés qu'on leur demande, c'est d'expliquer à des gens, en petits groupes.
De prendre en charge les différents publics qui sont demandeurs. Quoi.
Donc voilà, donc c'est déjà une première formation, outre la formation de fouilles et de, Donc pour moi, la médiation, c'est ça, c'est-à-dire que c'est le relais des gens qui sont sur le terrain. Et encore ici, c'est relativement facile, enfin ici ou sur les sites, en programmer parce qu'ils restent, ils sont visibles, même quand on n'est plus là. Il y a toujours des panneaux, puis on peut s'appuyer sur des gens qui savent, qui vont chercher dans nos rapports, qui vont expliquer de manière cohérente, en fonction du public qu'ils ont, parce que les niveaux d'explication ne sont pas forcément les mêmes. Sur l'archéologie préventive, il faut aller chercher, parce qu'il n'y a plus le témoignage matériel, donc il faut aller plus chercher, si on veut faire la médiation, dans ce qui a été écrit.
Oui. Sur de la préventive ou même des fouilles qui ont pu avoir lieu bien avant que l'archéologie soit établie comme aujourd'hui. Oui, on en parlait tout à l'heure. Enfin, moi, dans le cadre des journées de l'archéologie, actuellement, je recherche des choses qui n'existent plus. Il n'y a plus de visuel, mais on va quand même expliquer aux gens que c'était là.
Non, c'est important. C'est la mémoire du patrimoine, c'est important. C'est pour ça que, de toute façon, je reviens toujours au ministère de la Culture, on a des cartes où sont recensés tous les sites archéologiques.
Oui. Qui ont été fouillés. Toutes périodes confondues.
Toutes périodes confondues, qui ont été fouillées, et tous les rapports sont en ligne, consultables par tous. Donc, effectivement, quand les gens. On a un discours, quand on fait de la médiation, quand on, pour les JEA par exemple, quand on va, qui peut paraître superficiel, mais ceux qui ont envie d'aller plus loin ont toutes les clés, puisque tous les rapports sont en ligne, et donc chacun peut y retrouver son bonheur à quelque niveau que ce soit. Oui.
Alors, aujourd'hui, la retraite arrive, elle n'est pas très loin, mais est-ce que toi, tu as des projets pour l'après qui soient toujours en lien avec l'archéologie? Est-ce que quand voilà, on part en retraite de ce métier, est-ce qu'on le quitte pour toujours? On part vraiment en vacances au soleil? Comment ça se passe?
Si on est très fort, peut-être, mais en général, tous les archéologues qui partent à la retraite, on a toujours des publications à faire, on a toujours des publications, des articles, des projets.
Alors, est-ce que tu en as un en scoop à nous donner sur lequel tu aimerais bien travailler dans les mois à venir, où tu vas enfin avoir du temps pour ça?
De toute façon, moi, oui, il y a toujours la publication de la villa du Père et nous, parce que voilà, on va finir dans 2 ans ou quelque chose comme ça. Donc la publication suivra. Ensuite, moi j'ai fouillé la villa du Q dans les Côtes d'Armor à côté de Dinan.
Tu n'as toujours pas publié non plus là-dessus?
On est en cours de publication, mais c'est des publications qui ne se font pas tout seul. Hein. Ouais. C'est des équipes pluridisciplinaires parce que voilà,
l'archéologie. Et puis il y a les objets qui ont pu être retrouvés, voilà, et puis il y a un céramologue, il ne va pas faire le même boulot que toi, etc.
Il y a des égyptologues, il y a des archéozoos. Enfin bon, voilà, il y a tout un tas de gens qu'il faut. C'est aussi un boulot de coordonnateur. Hein, de toute façon, quand on est responsable d'opérations, que ce soit en préventif ou en programmé, on coordonne le chantier sur la fouille, mais on coordonne aussi les publications, l'après, ouais. Voilà, sur les rapports et avec les différents spécialistes qu'on fait intervenir.
Alors j'ai une dernière petite question que je me suis mise de côté, qui change un peu de celle que je pose d'habitude. Je me suis dit, pour Jean-Charles, il faut que je lui trouve un truc. Alors ma question, c'est, est-ce que tu pourrais nous donner le nom d'un archéologue qui t'aurait inspiré ou que t'aurais apprécié tout particulièrement, toi?
Moi, j'ai découvert l'archéologie quand je suis allé à la fac. Donc, je ne voulais pas être archéologue quand j'étais petit. Non, j'ai fait des rencontres, oui, dans ma vie. La rencontre qui m'a le plus marqué, c'était quand je fouillais au Yémen. Et on fouillait toujours en hiver. Et j'avais passé Noël, je me souviens, avec Alberto Moravia, qui n'est absolument pas un archéologue. Qui est un écrivain italien extraordinaire. Donc et qui pouvait parler.
Qui a une façon de parler.
Ouais. Voilà, il y a des gens comme ça avec qui tu peux aborder, qui sont pas archéologues mais qui ont des esprits. Je me souviens aussi de Pisani par exemple, qui a été après président de Lima et qui passait aussi quand je fouillais à l'étranger avec qui voilà, c'est des gens qui sont pas forcément d'archéologues
pure souche on va dire souche, mais voilà. Qui tendent vers une aspiration
et
en tout cas
une culture générale qui se perd beaucoup, ouais. Actuellement on est plus formaté en fonction des études qu'on fait.
Oui, on a moins l'idée du mentor ou de la personne ressource en tout cas qui pourrait nous inspirer quoi. Bah merci beaucoup Jean-Charles de nous avoir reçus donc au site de Plomelin. Alors donc il y a les journées de l'archéologie à la fin du mois de juin où il y a un accueil du public qui est prévu.
Tout à fait.
Donc il y a des visites avec des horaires. Je vous invite à aller sur le site de l'INRAP où tout est noté avec comme ça je ne dirai pas de bêtises à l'antenne pour les auditeurs. Et puis franchement merci de t'être prêté au petit jeu de trouver la sac à dos. Alors nous on reprend sur Radio Évasion, donc l'émission c'est le mercredi matin à 10h. Puis pour ceux qui étaient un peu flemmards de se lever le mercredi matin, c'est en rediff le dimanche après-midi à 14h. Et puis moi je repars par Mons et par Vaux. Je vous en dis pas plus, c'est le teasing pour la suite. Encore merci Jean-Charles.
Avec plaisir et puis bonne fin de journée.
Pour revenir sur les explications de Jean-Charles concernant les différentes fouilles archéologiques, nous faisons la distinction entre les fouilles dites programmées et les fouilles dites préventives. Les préventives, comme leur nom l'indique, et comme le spécifie Jean-Charles, viennent se greffer sur des projets d'aménagement du territoire susceptibles de détruire des vestiges repérés via une détection préalable du terrain. Ces actions de prévention permettent de conserver une trace écrite de l'étude des sols, de conserver leur histoire. Les fouilles programmées, quant à elles, interviennent sur des sites non menacés et permettent aux archéologues d'explorer intégralement un lieu et d'en faire une analyse complète, permettant de répondre aux diverses questions liées à leur recherche, sur une période donnée, une civilisation spécifique ou une architecture particulière. Avec les journées de l'archéologie à venir, les 17, 18 et 19 juin, vous pouvez faire vos curieux pour découvrir toutes les facettes de ce métier. Avec Archéolab, nous vous avons concocté une journée complète entre Montagne Noire et Mont d'Arrée, le dimanche 19 juin. À partir de 9h, nous serons en Haute-Cornouaille, à la chapelle Notre-Dame-des-Portes, à Châteauneuf-du-Fou, et à 14h, direction les Monts d'Arrée, rendez-vous devant l'office de tourisme de Brasparts. Je ne vous en dis pas plus. Je vous invite aussi à lire quelques ouvrages d'Alberto Moravia, écrivain et journaliste italien, romancier mais aussi essayiste. Il a aussi à son actif de nombreux carnets de voyage. Je comprends tout à fait qu'il fasse partie de ces belles rencontres de Jean-Charles. En attendant les JEA et le prochain épisode de Truer les sacs à dos, eh bien moi de mon côté, je vous dis à bientôt.